Eh bien, mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin?
Oh, mais c'est moi!
Ah, mon petit, je ne te dis que ça.
C'est à moi, je vous dis! C'est à moi, je vous dis! Je vous dis merde! Je vous dis merde!
Bonjour à tous et à toutes, nous revoilà sur Radio Panique. Nous sommes hyper heureux et heureuses de vous retrouver. Jeunes radioactifs, c'est ici et maintenant sur Radio Panique. À l'antenne, Fabrice en régie et moi-même. Tous les quatrièmes mercredis du mois sur Radio Panique, c'est nous les jeunes radioactifs.
Mais jeunes radioactifs, c'est quoi?
C'est l'émission participative par excellence.
On parle de quoi ici?
De sujets sérieux comme l'école, le travail, le stage, la famille, mais des sujets qui nous parlent et nous concernent. Reste avec nous si tu veux en apprendre plus.
Mais à part nous, qui participe aux jeunes radioactifs?
Les jeunes, petits et grands.
Et pour qui?
Les jeunes encore, grands et petits, malins ou pas, bruxellois ou non. On accepte tout le monde ici.
Qui d'autre est présent pour faire notre belle émission?
Radio Panique, bien sûr, sur 105.4 et les associations du secteur de la jeunesse, comme un fort jeune Laken. Dans tous les cas, toi qui nous écoutes, si tu veux nous aider dans notre projet, contacte-nous à un fort jeune Laken ou au 02 421 71 30.
Comment se déroulent les émissions radio?
On fait une émission par mois. On fait presque toujours du direct, tous les quatrièmes mercredis du mois. De plus, on fait aussi des micro-trottoirs, des reportages et des interviews.
Et pour aujourd'hui, Pana, on se met quoi sous la dent?
Alors, au sommaire d'aujourd'hui, nous allons mettre en lumière les troubles de l'apprentissage. De quoi s'agit-il? Que signifient les aménagements raisonnables? Et concrètement, comment cela se passe-t-il pour une personne au quotidien qui vit avec un de ces troubles? Pour cela, nous allons accueillir Chantal Massard, directrice d'un fort jeune Laken, et Aurélie Mboulet, coordinatrice du jeu Je te trouble.
Bonjour.
Bienvenue à vous.
Bonjour.
Nous allons avoir le plaisir d'écouter aussi les témoignages de Kevin, Myriam, Evelyne, Quentin et Ariane. Bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
On se retrouve juste après Ariana Grande et Mika et leur titre Popular Song, deux artistes qui vivent avec un trouble de l'apprentissage.
Selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong. 'Cause I'm putting down my story in a popular song.
I said I'm putting down my story in a popular song.
My title, I never was a model. I never was a scholar. But you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row. 'Cause my song is popular.
Toilets, now it's you that cleans
up. Trying to make me feel bad with the things you do. It ain't so funny when the joke's on you.
Ooh, the joke's on you. Got everyone laughing, got everyone clapping.
Asking how come you look so cool. 'Cause that's the only thing that I learned at school.
Boy.
That's the only thing that I learned at school.
Well, to Mika.
Home, Coop. We have dinner planned for some very special guests.
I never was a model. I never was a scholar. But you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row. 'Cause my song is popular.
True to you, that's all you ever need to know.
toujours à l'antenne sur Radio Panique avec les jeunes radioactifs. C'était le son de Mika et Ariana Grande. La chanteuse vit avec un TDAHA et Mika avec la dyslexie et la dysphasie. Aujourd'hui, nous parlons des troubles de l'apprentissage, dont notamment les troubles 10. En Belgique, ceux-ci toucheraient entre 6% et 8% de la population, ce qui est loin d'être négligeable. Nous avons au préalable réalisé un micro-trottoir afin de voir si ces troubles sont connus par les Bruxellois ou non. Écoutons.
Connaissez-vous ce qu'est un trouble de l'apprentissage ?
Non.
Non.
Oui, mais j'ai l'impression que les 10 et autres.
Et techniquement, les termes en tant que tels et les explications, non. Mais en règle générale, c'est quand quelqu'un a des difficultés à apprendre ou à assimiler des informations.
Pouvez-vous nommer trois troubles de l'apprentissage que vous connaissez ?
Il y a la dyspraxie.
Oui.
Il y a la dysgraphie aussi.
Oui.
Enfin, tous les 10, quoi. Il y en a pas mal. Okay. Voilà. Il y a aussi des problèmes de motricité. Je ne sais pas si on peut les considérer comme troubles d'apprentissage.
Dysphasique, dyscalculie et dysorthographie.
Je dirais la dyslexie, la dyscalculie et... je ne sais pas, les troisièmes. Je ne saurais pas vous dire. Désolée.
Connaissez-vous des personnes vivant avec des troubles de l'apprentissage ?
Mon fils aîné, il a 42 ans et il avait des problèmes de...
dyspraxie,
ouais, le premier, dyslexie,
voilà, c'est ça.
Mais à l'époque, évidemment, bon, c'était un peu tabou, quoi. On disait facilement, il a un cheveu sur la langue, ou il a une
ouais.
On ne mettait pas l'accent sur le mot exact.
Je pense à ma collègue qui est psychologue de formation, mm-hmm. et qui est effectivement, je ne sais pas lequel 10 spécifiquement, mais qui en est une.
D'accord.
Et qui, ma foi, réussit à passer outre ses difficultés pour avancer dans la vie.
Savez-vous en quoi consiste un aménagement raisonnable et en quoi et comment cela se pratique ?
Je sais qu'à l'école, ils le font. C'est avec le PMS, etc.
Oui.
Ils essaient de mettre des choses en place pour qu'il y ait des facilités d'écriture ou de déplacement, ou alors on fait même des jeux adaptés ou des trucs comme ça. Pareil pour le matériel. Voilà.
J'ai un peu le cas parce que mon fils il sait pas encore trop bien lire et on me propose la logopédie, ce que je fais déjà avec sa grande sœur.
Okay.
Et je crois que avec cette méthode, on pourra y arriver.
Alors je crois qu'il y a effectivement des manières de présenter les lettres et les mots. Maintenant, pour vous dire précisément de quoi il en est, non, je ne saurais pas vous dire.
Non, je ne sais pas, très honnêtement, mais je dirais que normalement, ça devrait être des mesures qui sont prises, de mise à disposition, comme vous dites, à l'école, pour que l'enfant qui dispose de ces troubles puisse se sentir accueilli, à l'aise, entouré et soutenu pour qu'il puisse aussi s'épanouir à l'école, faire des amis, continuer à apprendre à son rythme.
Beaucoup de questions peuvent apparaître lorsqu'on aborde ces troubles. Comment savoir si j'en ai un ? Comment cela va se passer à l'école ? Qu'en penseront mes copains, copines de classe ? Et même plus tard, en ce qui concerne le monde du travail ? Nous sommes accompagnés de nos invités pour répondre à toutes ces questions. Accueillons d'abord Chantal Massard et Aurélie Mboulet, qui nous viennent tout droit d'un fort jeune Laeken. Alors, Chantal, à toi l'honneur, peux-tu nous parler de ces troubles de l'apprentissage et comment tu travailles à les mettre en lumière ?
Alors, Panaoui, je vais t'étonner, je peux le faire, je suis cap. En fait, je vais d'abord me permettre de recontextualiser la question et d'expliquer pourquoi un fort jeune Laeken s'est fortement investi dans la problématique des troubles. En réalité, on s'est vite rendu compte que beaucoup de jeunes, et particulièrement des jeunes de milieux socio-économiques défavorisés, de milieux populaires, étaient orientés de manière abusive vers l'enseignement spécialisé. Je pense essentiellement dans le type 1, le type 3 et le type 8. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le type 1, c'est des jeunes qui auraient des déficiences mentales légères. Le type 3, ce serait des jeunes caractériels. Et le type 8, c'est les jeunes atteints de dyslexie. Or, l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui, c'est de promouvoir une école inclusive qui permet aux jeunes de rester dans l'enseignement ordinaire et de ne pas être relégués dans le spécialisé. Pourquoi ? Ben, essentiellement parce que on sait que les jeunes qui se trouvent dans le spécialisé, 10% d'entre eux seulement vont obtenir leur CEB. Et donc, clairement, quand on se retrouve dans cette situation, on risque d'être en situation de pauvreté. Je vais encore dire un tout petit mot, parce qu'on me fait des signes que je dois aller rapidement. Il serait important aussi aujourd'hui, donc on sait qu'au moment de l'inscription dans les hautes écoles et dans les universités, en règle générale, on demande aux jeunes s'ils ont besoin d'aménagements raisonnables. Alors les aménagements raisonnables, c'est tout simple, hein. Je vais donner des exemples quand même pour qu'on puisse comprendre concrètement de quoi il s'agit. Un aménagement raisonnable possible, quand on a des problèmes de concentration, c'est de porter un casque anti-bruit. Ce n'est pas très compliqué. Un autre aménagement raisonnable, c'est la possibilité de jouir de plus de temps pour travailler. Encore un autre aménagement raisonnable, c'est la possibilité d'avoir un ordinateur, d'en disposer alors qu'on est dyslexique ou dysorthographique. Donc voilà, il y a les aménagements raisonnables. C'est vraiment leur implémentation, c'est vraiment une question de mentalité, de sensibilité. C'est aussi le fait qu'il faut qu'ils soient légitimes. Comme les troubles, en général, ils sont invisibles, eh bien, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on incrimine le jeune et qu'on lui dit « bah, t'es fainéant, t'as pas compris, tu t'es pas appliqué ». Et c'est ça qu'il faut sortir de l'ombre. Il y a une réalité de difficulté et il y a une possibilité de répondre par des aménagements raisonnables qui ont été rendus obligatoires en 2017. Et donc, je vais vite finir sur... Ça va, je suis toujours dans les temps pour laisser la parole aux autres.
Non, pas de souci.
Donc, nous, on souhaiterait aussi... Je voulais insister aussi sur le fait que les CPMS, c'est une réalité qu'on rencontre très régulièrement, les CPMS remettent des avis quand il s'agit d'orienter ou non vers l'enseignement spécialisé. Mais c'est les parents qui restent aux commandes. Autrement dit, le CPMS ne prend pas la décision d'orienter vers l'enseignement spécialisé, il remet un avis. C'est très, très important. Il faut que ça se sache parce que malheureusement, je vais le dire de manière assez plate, il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus et il y a beaucoup de parents qui... se retrouvent dans des situations où ils ont peur, ils sont paumés, ils ne savent pas trop ce qui se passe et qui acceptent, en tout cas dans les milieux populaires, cette forme de relégation. Et donc voilà, il faut vraiment savoir que les CPMS sont en charge d'un avis, ni plus ni moins. Et je repasse la parole aux autres.
Et tu, et tu as parlé des aménagements raisonnables. Tu as dit que ceci était obligatoire depuis...
2017.
Et concrètement, dans la réalité du terrain, est-ce qu'ils sont efficaces? Et comment est-ce qu'ils sont mis en place?
Ah ben, ils sont efficaces à partir du moment où il y a un bon diagnostic et à partir du moment où ils sont suivis, qu'ils sont réellement implémentés et à partir du moment aussi où on permet aux jeunes, et ça c'est le sens de la législation, d'en bénéficier pendant leur scolarité, mais aussi au moment des examens. C'est vraiment très, très, très important et c'est efficace si on ne stigmatise pas le jeune. Si, je vais reprendre l'exemple des lunettes, hein, qui est un peu l'emblème de notre campagne, ça ne viendrait à l'esprit de personne de dire à quelqu'un « enlève tes lunettes parce que tu bénéficies d'un privilège ». Ça n'a aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc, il faut absolument que dans les mentalités, les choses changent et qu'on comprenne bien que si quelqu'un bénéficie de plus de temps que son voisin, ben, ce n'est pas parce qu'il a un privilège. Et si on vous offre la possibilité d'utiliser un ordinateur, ben, c'est bien parce que vous en avez besoin. Et ce serait vraiment dommage, je vais me permettre de donner un exemple, ce serait vraiment dommage de priver les jeunes de ces outils-là, les jeunes et les moins jeunes, parce que c'est important qu'ils puissent s'épanouir. On peut être dysorthographique et dyslexique et être un auteur ou une autrice plus exactement reconnue. Je pense à Agatha Christie qui présentait toutes ces caractéristiques.
Merci beaucoup Chantal Massard, directrice d'InforJeuneLacun. InforJeuneLacun qui a tout récemment créé un jeu qui sensibilise aux différents troubles 10 et autres. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Aurélie Mboulet, qui est la créatrice du jeu. Bonjour Aurélie.
Bonjour Pana.
Est-ce que tu peux un peu nous parler du jeu, de ses objectifs et comment l'idée t'est venue?
Oui, bien sûr. Je veux juste souligner que en fait, je suis co-créatrice du jeu et que ça a été quand même un beau travail d'équipe. Je ne sais plus vraiment en fait dire comment l'idée nous est venue. Par contre, nous voulons faire en sorte que les jeunes puissent en apprendre davantage sur le sujet et en s'amusant. Et nous voulions également que cette activité soit collaborative. Et donc l'idée d'un jeu de société nous a plu. Et donc, concernant les objectifs, on en a 4 principaux. Donc, c'était de faire évoluer les mentalités afin de lever les préjugés, de favoriser l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de troubles invisibles. On m'entend ?
Oui, oui.
Okay. C'était aussi pouvoir montrer que les aménagements raisonnables peuvent être extrêmement simples et qu'ils devraient être définis en tant qu'aménagements nécessaires et non raisonnables. C'était aussi de montrer les côtés positifs aux troubles invisibles. On a mis en avant dans le jeu que beaucoup d'aptitudes particulières étaient liées aux troubles de l'apprentissage, notamment donc les personnes qui vivent avec des 10 ont pour la plupart une communication quand même assez incroyable, une créativité, une capacité de mémorisation aussi impressionnante. Et donc, c'est tous ces côtés positifs aussi qu'on voulait mettre en avant. On voulait aussi sensibiliser les employeurs et générer de la coopération entre les jeunes et les employeurs. Et puis finalement, jouer avec les jeunes, les sensibiliser et les outiller.
Merci beaucoup, Aurélie. Et j'ai vu notamment dans le jeu qu'on mentionnait pas mal de célébrités qui ont aussi des troubles de l'attention, de l'apprentissage, pardon. Pourquoi cela, tu dirais ?
Bien. Le but aussi, donc, c'est de visibiliser le sujet, de visibiliser les troubles, d'en parler. Et donc, des personnalités connues pour que les jeunes puissent s'identifier positivement à des figures inspirantes pour leur montrer que les troubles ne sont pas des obstacles infranchissables et que le monde des possibles est complètement réel quoi, et faisable. Voilà.
Merci beaucoup. D'ailleurs, toutes les musiques qui seront diffusées lors de cette émission sont interprétées par des artistes ayant des troubles. Notre sujet du jour traite des troubles de l'apprentissage, afin de mieux les comprendre et offrir une école plus inclusive pour tous et toutes. Pour cela, écoutons également un extrait audio de la conférence de presse du 29 mars 2023 dans les bureaux d'Inforjeune Lacueul avec Souleymane Lagdim, délégué général aux droits de l'enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui nous parle du jeu « Je te trouble ».
Alors un petit mot d'abord par rapport au jeu, c'est un très bel objet. Je trouve qu'il est très ergonomique et il donne envie de jouer. C'est un objet de sensibilisation, mais qui pour moi offre deux avantages. Le premier, c'est d'abord de conscientiser, donc ça c'est pas mal. Le deuxième aspect qui est très intéressant, c'est de questionner les pratiques et donner des pistes de solutions, parce que j'ai un peu parcouru le petit document, donc ça c'est vraiment bien et vous avez eu l'intelligence d'utiliser la voie ludique. Et si je m'en réfère toujours à mon histoire personnelle, je ne suis pas trop auto-centré, mais si je m'en réfère toujours à mon histoire personnelle, les profs qui m'ont le plus marqué dans mon histoire, j'ai eu des profs qui ont été exécrables et j'ai eu des profs qui ont été de vraies personnes de référence et qui ont eu un impact sur ma vie. Et donc si je me réfère à ces profs-là, ils avaient une chose en commun. En fait, ils avaient deux choses en commun. La première, c'est qu'ils nous considéraient dans une vraie relation d'équité, ils nous respectaient énormément, donc un peu comme vous avec vos élèves. Et la deuxième chose, c'est qu'ils rendaient ça ludique. Et par exemple, encore aujourd'hui, j'ai eu un très bon prof de maths, j'ai eu cette chance-là, mais encore aujourd'hui, je regarde des démonstrations mathématiques parce que pour moi, c'est devenu un jeu et c'est très agréable. Ça va faire que probablement ce n'était pas grand-chose dans ma vie de tous les jours, mais c'est très agréable. Alors on a parlé d'aménagement raisonnable, et c'est vrai que le terme raisonnable n'est pas un bon terme, mais j'aime beaucoup l'universalité qui est prônée, parce que ce qu'il y a derrière ce qui a été dit, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on demande à des personnes de s'adapter à une société à laquelle ils appartiennent. C'est la société qui doit s'adapter à eux.
C'était l'intervention du délégué aux droits de l'enfant. Nous sommes toujours en direct sur Radio Panique. Merci de nous rejoindre, c'est l'émission des jeunes radioactifs. L'extrait que l'on vient d'entendre provient de la conférence de presse du 29 mars dans les locaux d'Inforjeune Lacueul. Chantal, étant la directrice, voudrais-tu rajouter quelque chose ?
Je vais simplement rajouter que depuis la conférence de presse, on a eu un certain nombre de demandes d'écoles qui souhaitent qu'on aille animer avec le jeu certaines classes sur cette problématique. Et donc, on sera aussi dans ces classes accompagnés de certains des témoins que vous avez autour de la table dans le studio aujourd'hui pour, participer à cette sensibilisation. Ça me paraissait important de le souligner.
Merci Chantal. Nous allons à présent écouter Myriam.
Est-ce que tu peux te présenter et nous partager ton expérience concernant les troubles de l'apprentissage ?
Oui. Alors, je m'appelle Myriam, j'ai 21 ans et je suis élève à l'école de l'EFEC en International Business. Moi, je suis dysphasie. Mon parcours a été assez chaotique. On m'a diagnostiqué la dysphasie quand j'étais en première primaire. Et c'est là où, en fait, le directeur a conseillé ma mère de me mettre dans une école spécialisée. Du coup, je suis partie à l'école Sureau, que je suis restée très longtemps. Le problème, c'est que l'apprentissage là-bas, c'était vraiment nul, puisque le professeur était plus, on va dire, comme un enfant. Elle aimait Hello Kitty, les devoirs, il n'y en avait pas. Les sciences, maths, français, ça n'existe pas. Du coup, j'ai changé d'école. Je suis allée à l'école Merlot. Là, ça allait, on avançait un peu plus, on apprenait 2-3 trucs, mais on n'avait pas le même niveau que les autres élèves d'une école normale. Et grâce à un voisin, il m'a beaucoup aidée et j'ai pu rattraper tout mon retard. Et c'est grâce à lui qu'il m'a en fait retirée de cette école pour me mettre dans une école ordinaire. Même si ça n'était pas facile puisque la directrice ne voulait absolument pas me retirer de cette école-là pour que je puisse aller dans une école normale à cause de l'argent. Puisque si vous voulez, dans ces écoles-là, l'argent, enfin chaque élève a un prix. Plus on a d'élèves, plus il y a de l'argent. Et ça a été vraiment difficile. Mais Dieu merci, j'ai réussi à m'en sortir. Jusqu'à là, maintenant, ça va.
Et tu as dit que tu as éprouvé des difficultés en passant du spécialisé à l'ordinaire. Est-ce que tu en as eu d'autres ? Par exemple, le regard des autres
En fait, on a une mentalité assez différente. On est surprotégé dans les écoles spécialisées. On nous chouchoute, on nous traite comme si on était encore des véritables petits-enfants, comme si on avait 5 ans, malgré qu'on a quand même 10, 11 ans, où là, l'âge de la raison commence à venir. ça a été un peu difficile pour moi d'être avec eux, parce que j'avais l'impression qu'ils étaient déjà un peu plus adultes que moi. Mais après, je me suis fait des amis, ils ont compris mon trouble, et je me suis plutôt bien intégrée dans ma classe. Et maintenant, je suis bien dans mon école avec tous mes amis. Franchement, c'est super.
Génial. Merci beaucoup. Merci Myriam.
De rien.
Écoutons à présent Quentin, qui est un jeune assistant social et membre de la Ligue des droits de l'enfant. Est-ce que tu peux nous parler de ton domaine d'action et de ton expérience personnelle aussi ?
Oui, bien sûr. Eh bien, je fais toujours rire les gens en disant comme ça que je suis de l'ancienne génération, parce que je ne suis plus tout à fait si jeune que ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, donc moi, il faut savoir que j'ai été diagnostiqué et suivi avec un TDA, donc sans hyperactivité, depuis l'âge de 6 ans. Voilà, c'était un peu, j'ai envie de dire, une autre époque, il n'y avait pas les aménagements raisonnables qui étaient obligatoires comme maintenant, plus récemment, et ils n'étaient que aléatoires. Donc c'était vraiment en fonction de l'école où on se trouvait qu'on pouvait en bénéficier ou avoir cette chance. Moi, ça n'a pas tout à fait été le cas. Donc effectivement, oui, j'ai vécu beaucoup de discrimination, de stigmatisation, etc. Donc effectivement, ça n'a pas toujours été facile, mais je pense qu'avec les suivis par mon psychologue, ma neuropsychologue pour les méthodes de travail, la gestion de l'implicite et de l'explicite m'ont beaucoup aidé, et c'est en fait un peu, j'ai envie de dire, grâce à ces professionnels que j'ai pu justement vivre avec justement ce trouble de l'apprentissage, et aussi notamment avec mon médecin pour la prise du méthylphénidate, donc qui est vraiment la molécule pour justement, on va dire, avoir les symptômes réduits des difficultés de la concentration pour le cas du TDAH. Oui, effectivement.
Et tu as parlé de discrimination. Comment est-ce que tu crois que, selon toi, l'école pourrait être un lieu moins discriminant, justement ?
Il y a beaucoup de choses. En fait, effectivement, donc oui, le décret sur les aménagements raisonnables, donc voilà, ils sont obligatoires maintenant. Et effectivement, il y a de plus en plus de formations qui sont destinées aux enseignants ou en tout cas les professionnels de l'éducation à ce propos. On en parle de plus en plus et effectivement, c'est un espoir. Maintenant, j'ai quand même envie de dire qu'on est encore très loin d'un vrai système éducatif inclusif. Je veux dire, je pense que voilà... C'est pour ça que dans mon cas, je me suis considérée comme une personne militante, donc militante et DAH. C'est un terme qui n'existe pas encore beaucoup dans nos pays francophones, mais plutôt dans les pays anglophones. Et parce que justement, il y a encore énormément à faire. Et justement, on ne doit pas encore s'arrêter à tout ça. Et vraiment, je pense que même si effectivement TDAH Belgique, la SBL qui nous représente, nous les personnes avec TDAH, eh bien, a fait beaucoup de travail durant toutes ces années, je pense qu'en fait, ils ne vont pas tout à fait encore dans le sens où on peut justement essayer, nous en tant que personnes, avec ce trouble d'apprentissage, à agir, en fait, par exemple, au sein de l'école, à être acteur. Et je pense que, voilà, c'est important de pouvoir oser dire, en fait, que j'ai besoin d'eux et je demande pour un aménagement tel quel.
Bien sûr.
C'est vraiment très important pour partir de ces besoins. Et parce que, voilà, les discriminations, on entend énormément. On ne va pas faire ça pour un seul élève. Fais marcher ton cerveau ou alors il faut écouter. Tout ça, c'est en fait important et je pense qu'il y a cet important de les interpeller à ce point de vue-là.
Bien sûr. Merci, Quentin.
Merci.
Nous allons à présent écouter un extrait audio de Jean-Pierre Kounen, qui est le président de la Ligue des droits d'enfants.
Est-ce qu'il y a des écoles inclusives en fédération Wallonie-Bruxelles? D'abord, la fédération Wallonie-Bruxelles ne sait pas ce que c'est une école inclusive. Dans le pacte pour un enseignement d'excellence, l'avis numéro 4, enfin l'avis numéro 3, mais dans la partie 4, on prévoit que l'école inclusive, c'est écrit comme ça, c'est permettre aux enfants en besoin spécifique de rester dans l'enseignement ordinaire avec des aménagements raisonnables. Eh bien, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas la Fédération Wallonie-Bruxelles qui décide ce que c'est une école inclusive. L'UNESCO a défini l'école inclusive depuis les années 90. Et même avant, l'école inclusive, c'est l'école pour tous et pour chacun. Mais notre système scolaire ne vise pas ça du tout. Et c'est le pacte dont on parle de tout passer par là. Il a simplement, on a mis les pôles territoriaux, parce que l'intégration temporaire totale de ces enfants avec les 2021, avec autisme, etc., coûte trop cher. Hein? Et d'un autre côté, on voyait que l'enseignement spécialisé continue à augmenter. De plus en plus, est-ce que ce que disait Chantal, on dirige de plus en plus des enfants qui n'ont rien à faire dans le spécialisé vers le spécialisé. Ce sont les orientations abusives. Et on abuse du gosse, on abuse la famille. Et tu étais très généreuse quand tu disais que 10-11% auraient leur CV. En type 8, c'est 8%. En type 1, c'est 1,3%. Donc c'est encore bien moins que ça. Le fait d'entrer dans le spécialisé, c'est nos futurs. Vous n'aurez pas le CV, soit vous entrez dans le général, en premier différencié, on essaiera de vous donner le CV que vous n'aurez pas. Ce sera le professionnel. Soit 30% restent dans l'enseignement spécialisé et ils iront directement en professionnel spécialisé, qui n'a pas la même valeur pour les employeurs qu'un nouveau professionnel de l'ordinaire. Donc ce seront, comme on dit en Wallonie, les mandailles de mandailles. C'est nos futurs.
Merci pour cette intervention, Jean-Pierre Kounen. Et comme vous l'avez dit, et que Chantal ici en plateau l'a redit, les aménagements raisonnables devraient être des aménagements universels si on veut vraiment avoir une école inclusive pour tous et pour toutes. Sans plus tarder, nous allons passer une chanson. Nous allons écouter Cher et son titre « Believe ».
Merci beaucoup, c'était Cher avec Believe. Et nous enchaînons avec Ariane, qui est une jeune étudiante dans le secteur social au Québec, qui nous a confié au préalable, lors d'une interview, son témoignage.
Moi, j'ai un trouble de l'apprentissage dyslexique. Donc, on s'en est rendu compte quand j'étais au primaire. Donc, je devais avoir environ peut-être 9 ans. Ça s'est manifesté plus au niveau de l'éducation quand j'étais à l'école au primaire. Donc, mes enseignants y avaient remarqué le fait que j'interchangeais beaucoup les sons, les lettres dans les mots. Puis par la suite, ils ont recommandé à mes parents de faire... de pousser plus loin pour voir si j'avais pas justement un trouble de l'apprentissage de dyslexie. Quand que j'ai eu mon diagnostic, l'école a mis en place des mesures adaptatives, donc j'avais un plan d'intervention qu'on appelle par chez moi. Dans le fond, avec ce plan d'intervention-là, j'avais le droit, par exemple, à un tiers de temps de plus pour faire mes examens. J'avais le droit à l'ordinateur pour écrire, donc des logiciels comme WordQ ou Antidote. WordQ, c'est dans le fond, tu mets des écouteurs et le logiciel te lit le mot. Comme ça, tu es vraiment sûr que c'est le bon mot que tu écris. Me permettre d'avoir de l'aide, ça a été plus dur pour moi. J'avais l'impression d'être chanceuse d'avoir accès à un ordinateur, quand pourtant c'est pas une chance ou c'est pas de la tricherie, en fait. C'est comme quelqu'un qui porte des lunettes. La personne qui porte des lunettes a besoin de lunettes pour voir. Mais moi, j'avais besoin d'un ordinateur pour mieux écrire. Je pense que toute personne, malgré ses difficultés, a le droit à un avenir égaux et équitable. Donc, je souhaite que l'environnement dans lequel ils vivent réponde à leurs besoins, que l'école réponde à leurs besoins. Je souhaite que les gens qui ne comprennent pas la différence aient une meilleure ouverture d'esprit, un meilleur respect.
Merci à toi, Ariane. Chantal, après ces différentes interventions et connaissant un petit peu les parcours de ces jeunes, est-ce que tu voudrais peut-être rebondir sur ce qui a été dit ?
Oui, je trouve que les témoignages sont assez édifiants. Ils sont parlants sur les difficultés que rencontrent les jeunes qui sont atteints de troubles. Et vraiment, on se dit, mais quelle déperdition de talent, quel gâchis. Et moi, je voudrais rebondir aussi sur le fait que si les jeunes ont des besoins spécifiques, ils ont aussi des aptitudes particulières. C'est un autre point qu'il s'agit de mettre en lumière. Souvent, par exemple, quand on est porteur de 10, bon, on a dû compenser d'une manière ou d'une autre, et ça donne aussi des qualités particulières. Je pense notamment à l'empathie, qui est une des qualités que les 10 de tout ordre peuvent développer. Il est fréquent aussi que les 10 soient excellents dans tout ce qui est relatif à la communication. Voilà, donc c'est vraiment ce message-là aussi. Besoin particulier, spécifique, pardon, et aptitude particulière, ça pourrait être un slogan.
Merci Chantal. Nous allons passer à une musique. Nous allons écouter Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing.
pushing on. I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance.
C'était Justin Timberlake avec Can't Stop the Feeling. Dans la première partie de cette émission, nous avons beaucoup abordé le cadre scolaire. Dans cette deuxième partie, nous allons plutôt parler des examens, des études supérieures, mais aussi de l'insertion dans le milieu professionnel. Evelyne, bonjour.
Bonjour, Pana.
Alors, tu es étudiante actuellement en cinéma et déjà cinéaste sur ta chaîne YouTube. Pourrais-tu nous partager ton expérience avec le TDAHA et des tips pour mieux s'organiser ?
Et bah du coup, en fait, moi, j'ai été diagnostiquée TDAH assez récemment. J'ai été diagnostiquée l'année passée. Donc, c'est quelque chose d'assez récent pour moi, mais pas en même temps. C'est-à-dire qu'à mes 6 ans, ma tante a vu quelque chose en disant « Elle fait beaucoup d'activités, celle-là, c'est un peu chelou. » Et mon médecin traitant a juste dit que j'étais très créative et que j'aimais bien jouer. Et, voilà. Et du coup, on ne s'est pas plus intéressé à ça, alors que ma tante avait déjà dit « J'ai l'impression qu'elle a un TDAH ». Et puis en fait, pour des soucis plutôt d'anxiété, je me suis rendue chez la psychiatre qui m'a diagnostiqué à part après un TDAH. Du coup, voilà un peu comment j'en suis arrivée là. Et sinon, niveau organisation, je suis quelqu'un qui a besoin de certaines routines, même si des fois je ne les respecte pas. J'ai besoin de savoir qu'à des moments, j'ai une routine, j'ai tel jour je dois faire quelque chose, tel jour j'en fais une autre. Et c'est pour ça, par exemple, tu parlais de mes vidéos YouTube. En général, je fais mon montage tous les dimanches matin. Mais si, par exemple, je me sens pas bien, je suis fatiguée, j'ai pas envie de le faire, je sens pas le mood et je me mets pas de pression, en fait. Je le fais pas, je le fais pas, je le ferai plus tard ou je déplace le post de mes vidéos parce que je ne suis pas encore une grande influenceuse. Donc, je n'ai pas besoin de tout le temps poster. Et sinon, niveau scolaire, par exemple, ce que je fais, c'est que j'ai l'application de mon calendrier et la to-do list toujours présente sur mon écran de téléphone. C'est les premières applications que je vois tout le temps. Et comme ça, j'ai un peu plus de visibilité sur ce que je suis censée faire ou pas. Après, je dois dire, je suis quelqu'un de très analogue. Même si je suis techniquement une génération Z, j'aime beaucoup le papier. Et du coup, j'ai mon propre bullet journal. Donc, c'est un agenda que tu crées toi-même, que tu dessines, tu fais ce que tu veux avec. Et j'ai vraiment besoin de ça, en fait, pour fonctionner correctement. Donc, j'aime bien classifier les choses. Donc là, je classifie mes lectures, les films qu'on doit voir, les films que j'ai vus. Et je le mets tout dans ce format papier, en fait. C'est plus facile pour moi.
Super, mais merci beaucoup.
Et comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, les examens approchent très bientôt. Comment est-ce que tu procèdes en termes de méthodologie de travail pendant cette session ou ce blocus
Alors du coup, comme je disais, j'ai été diagnostiquée assez tard. Donc c'est également dû au fait que moi, contrairement, on dirait, le stéréotype du TDAH ou du TDA, je n'ai pas eu de troubles en primaire et en secondaire. C'est-à-dire que j'ai toujours réussi correctement. La psychiatre soupçonne que j'ai plutôt un potentiel intellectuel élevé. Je n'ai pas encore fait le test, mais c'est ses conclusions à elle. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop souffert quand j'étais en primaire et en secondaire. Toutefois, quand je suis arrivée à l'université, je me suis pris une très très grosse claque parce qu'il fallait quand même que je relise mes cours, que ça ne suffisait pas juste assister en classe pour réussir. J'avais vraiment besoin d'étudier, de me mettre derrière mon bureau et commencer à étudier. Donc j'ai deux méthodologies. Tout dépend si j'assiste au cours ou pas. Si j'assiste au cours, en fait, je commence juste à étudier en blocus et je prends mes notes et les synthèses qui circulent dans les groupes. Et en fait, je réécris pendant ces deux semaines, trois semaines de blocus dépendant. Je réécris, je reformule, je resynthétise et je lis beaucoup à voix haute. Et par la suite, j'essaye de résumer par moi-même. Je regarde juste le titre et j'essaye de redire mes cours et les concepts qu'on a vus. Sinon, si je n'ai pas assisté au cours, je m'y prends deux semaines avant le blocus justement pour rassembler les notes et relire pour au moins une fois de quoi parle la matière, de quoi parle le cours. Typiquement, une journée de blocus pour moi, c'est de 9h à 19h, avec une heure de pause à midi, parce que j'ai remarqué que ce qui fonctionne le mieux, et c'est ce que ma concentration me permet, de rester focus aussi longtemps. Si je perds ma concentration, après, je me blâme pas, tant pis, j'ai perdu la concentration, ça sert à rien de forcer, parce qu'elle va pas revenir. Donc voilà, c'est plutôt ce que je fais. Après, j'essaie de me fixer des objectifs. Par jour, je dis, je vais résumer X pages. Si je termine plus tôt, je termine plus tôt. Si j'arrive pas à atteindre cet objectif, à nouveau, j'ai appris à ne pas me mettre la pression. Ça arrive. Et ben, je bosserai un peu plus le lendemain matin.
Oui, c'est ça. Le plus important, c'est de pas se culpabiliser. Et comme ça, on peut avancer.
Exactement. Ça prend du temps à se dire, genre, c'est pas grave. On pourra réaccéder à la matière. Mais ça m'est arrivé. Il y a un blocus. Je crois que j'ai passé 5 jours à regarder The 70 Show sur Netflix. Je me suis dit, oh là là, non, comment je vais faire? Je vais rater mes examens. Et c'est juste, mon cerveau apprend de mieux en mieux à savoir comment fonctionner. Et il s'habitue. Et il faut juste recalibrer. Et ça ira après. Il faut juste vraiment pas se sentir coupable, en fait. Parce que ça va enchaîner un cercle vicieux et on va jamais en sortir. Et c'est encore pire pour le mental parce qu'on va plus vouloir rien faire, en fait. Faut juste se dire, ok, c'est pas grave, j'ai pas assez étudié, j'ai mieux étudié l'autre jour, bah ok, tant mieux, t'as mieux étudié ce jour-là. Peut-être qu'il y avait des choses que t'avais fait qui ont fait que t'as mieux étudié. Faut pas se mettre la pression pour ça, vraiment.
Merci beaucoup pour ton précieux témoignage. Nous allons à présent écouter la dernière personne qui va intervenir aujourd'hui. Il s'agit de Kevin, pardon, qui est éducateur et qui nous parle de l'insertion dans le milieu professionnel.
Il y a plusieurs casquettes qui font que j'ai voulu témoigner. La première, c'est tout simplement en tant qu'ami, un ami qui souffre pour le coup du trouble du TDAH, donc il y a le trouble de l'attention. Et pendant très longtemps, il a vraiment découvert sur le tard, c'est vraiment post-vingtaine quoi, pour le coup. Et vous imaginez bien, on est amis depuis, je ne sais même plus depuis combien d'années. Et très souvent, dans les projets de groupe ou dans les trucs où on devait être nettement plus concentré, nettement plus sérieux, c'était toujours celui qui déviait un tout petit peu. Et la réflexion, c'est de se dire, bah ouais, t'es fainéant, t'es pas concentré, tu fais chier, enfin, concentre-toi et sois avec nous. Et puis, on comprenait pas pourquoi il s'éparpillait toujours, il est toujours en digression. Et maintenant qu'il s'est fait diagnostiquer, on revoit un peu le passé, les situations un peu compliquées dans lesquelles on s'est retrouvé avec lui et on se rend bien compte que si on avait eu l'info plus tôt, on aurait été plus attentif à ce genre de situation. Et maintenant, le nouveau comportement qu'on a adapté, c'est juste de laisser beaucoup plus de temps et pas exprimer la frustration. Parce qu'en fait, le fait de ne pas le savoir au départ, ça créait autant une frustration chez nous que chez lui, parce qu'on avait surtout l'impression qu'il n'était pas sérieux.
Merci à toi, Kevin, pour ton témoignage. Chantal, Aurélie, j'aimerais me tourner maintenant vers vous pour cette question. Qu'en est-il des mesures prises actuellement pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes vivant avec un trouble ?
Alors, il faut savoir que la législation, de manière bien légitime, empêche toute discrimination à l'embauche. Et donc, une personne qui serait dite, parce que c'est généré, comment le terme qui est utilisé malheureusement dans ces textes concernant la discrimination, c'est le terme d'handicap ou de porteur d'handicap. Et donc, ces personnes ne peuvent pas être discriminées à l'embauche. Maintenant, il y a une question de communication qui se pose de plus en plus. Il faut savoir que les jeunes qui ont des troubles ne se reconnaissent pas dans ce vocable, être handicapé ou porteur d'handicap. Et ils ne sont pas reconnus comme tels non plus par le phare, sauf quelques exceptions, des personnes qui sont qui ont une dyslexie extrêmement appuyée, alors effectivement, ils peuvent faire l'objet, ils peuvent obtenir un statut particulier. Mais donc, il y a vraiment à faire attention à la communication qu'on développe à l'endroit des jeunes, parce que si on leur parle d'handicap ou d'être porteur d'handicap, on en perd un certain nombre d'entre eux. Ça, c'est une première chose. Et donc, il y a cette législation antidiscrimination sur laquelle on peut s'appuyer, mais nous, on souhaiterait qu'à Bruxelles, en tout cas, on aille plus loin et qu'une ordonnance soit prise un peu similaire à ce qui a été décidé en matière scolaire et qui oblige les employeurs à utiliser et à proposer des aménagements raisonnables. Alors ça aussi, c'est une question de mentalité. J'ai vu, mais ça ne court pas les rues, une annonce d'emploi. C'était le CAL qui avait proposé cette annonce d'emploi. Et dans l'annonce, il était stipulé, si vous êtes porteur de troubles, dites-le à l'entretien d'embauche et dites-nous quels sont les aménagements raisonnables dont vous auriez besoin. Donc ça, c'est important. Je voudrais rajouter aussi que normalement, fin de cette année scolaire, nous allons organiser à la Cité des métiers une rencontre entre des employeurs potentiels et des jeunes porteurs de troubles, et que cette rencontre sera placée sous la thématique du jeu, Je te trouble, et qu'on va proposer notamment aux employeurs de réaliser des challenges avec les jeunes porteurs de troubles. Alors, je vous donne un exemple. Un des challenges qui est proposé, c'est que on doit se concentrer en ayant sur les oreilles un casque qui fait énormément de bruit, qui diffuse une musique très importante. Et ça donnera la possibilité pour celui qui n'est pas porteur de troubles de se rendre compte à quel point la concentration peut être difficile. De la même manière, si on pense à la dyspraxie, on va demander à des employeurs potentiels de faire l'exercice suivant. Ben, on va leur proposer d'enfiler un gant de boxe et de découper un certain nombre de formes. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte combien la situation peut être difficile.
Pour se mettre à la place de
Tout à fait, pour générer de la compréhension, de l'empathie et une meilleure compréhension des troubles, en fait.
De ce que ça fait de le vivre dans sa chair. Merci
de le vivre dans sa chair.
Ouais. Merci Chantal. Aurélie, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose aussi à ce propos ?
Je vais juste rajouter qu'effectivement, il y a peu d'offres d'emploi qui proposent que le candidat parle en fait d'aménagement raisonnable ou de besoins spécifiques dont il a besoin. Je sais que le public le fait, mais je sais que le privé, en fait, c'est les mauvais élèves. En Belgique, et même en fait en Europe, la Belgique, c'est un peu le mauvais élève et qu'il y a encore beaucoup à faire, quoi.
Oui, bien sûr, et sortir de la stigmatisation. Merci à toutes et à tous pour votre vive participation à cette émission. Est-ce que vous souhaitez rajouter un mot pour la fin ?
Oui, si je peux.
Un petit mot alors ? Ouais,
bien sûr. Eh bien, avec tout ce qu'on a dit, je pense que l'important, c'est de oser, nous, avec les personnes qui vivent avec des troubles d'apprentissage, parce que, comme disait Marc Favreau, une personnalité célèbre québécoise, eh bien, pour être un géant, il faut se tenir debout. Donc, ça éveille beaucoup de choses, je pense.
Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ou
Je veux bien à nouveau bien préciser que c'est quelque chose, comme disait Aurélie, par rapport à l'insertion au travail. Je l'ai vécu pendant 2 années. C'est vrai que c'était quelque chose d'assez compliqué. Je me suis rendu compte qu'un 9-17, c'était compliqué à rester devant un ordi, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir être debout, de ne pas juste... Enfin, oui, c'était assez compliqué pour moi. Et j'ai réalisé que justement, le télétravail, c'était génial parce que ça me permettait de justement laisser ma créativité quand j'avais des moments de blanc au travail. Mais c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps et j'espère vraiment que les choses vont être mises en place. Et à nouveau, pour tous les étudiantes, pour tous les élèves, ne vous en voulez pas, ça peut arriver, tout le monde est humain et l'erreur est humaine.
Merci beaucoup.
Eh bien, chers et chères, notre émission touche à sa fin. Si toi qui nous écoutes, tu veux des infos supplémentaires, tu peux consulter notre site internet www.inforjeune.eu ou nous téléphoner au 02 421 71 30. C'était la bande des jeunes radioactifs. On se donne rendez-vous le 31 mai prochain pour la prochaine émission. Salut à toi et à bientôt sur Radio Panique pour un nouveau numéro des jeunes radioactifs. On va s'écouter Mika pour se quitter. Belle soirée. Hey!
Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre.
Elle me dit, oui, un jour tu me tueras. Et c'est quand elle me dit.